Univers insolite. Alain Vaquier, Bruno Bertrand, à la rencontre des musiques des peuples premiers. La Polynésie doit sa découverte à un célèbre navigateur britannique, James Cook. C'est au cours de son premier voyage que James Cook va découvrir cette Polynésie et notamment Tahiti en premier. Il va débarquer avec son Endeavour, son fameux bateau, un gros bateau ventru, sans quille, tout à fait adapté à porter des marchandises et des marchandises surtout des consommables, ce qui permettait au bateau de faire de longues traversées sans avoir à s'approvisionner. Alors c'est en 1769 que l'équipage de James Cook aborde Tahiti. Alors il y a eu auparavant un premier voyage qui a découvert l'île. Il s'agit d'un bateau qui s'appelle le Dolphin, le dauphin donc en français, et qui est revenu avec, en faisant à Tahiti une réputation absolument extraordinaire, en disant que c'est un véritable Éden sur la terre, que les femmes y sont fortes, aimables, voire même plus que ça. Et donc le bateau de James Cook va partir avec des matelots qui sont pleins d'espoir, pleins de rêves, pour découvrir une sorte de paradis sur Terre. Cook, lui, est un homme extrêmement... il est protestant, très protestant. Il est assez rigide dans son comportement et il ne partagera jamais cette propension qu'auront ces hommes à aller vers les populations locales. Bien au contraire, il les juge très négativement, mais il ne peut s'y opposer sous peine de voir son autorité mise en cause. Lui, ce qui l'intéresse, ce sont les cartes. Et c'est un navigateur. Alors, on en parle beaucoup comme un navigateur, mais ça n'est pas qu'un navigateur, c'est surtout aussi un cartographe. Alors, il va s'embarquer avec un autre homme, quelqu'un qui dessine, qui s'appelle Samuel Holland. Et tous deux, ils vont faire la première carte. Et cette première carte, ils la constitueront dès 1758, lorsqu'ils vont remonter l'embouchure du Saint-Laurent au Canada. Et l'embouchure est très, très difficile à franchir. Elle est très dangereuse et elle est toujours aujourd'hui dangereuse d'ailleurs. Et à ce moment-là, les Français occupent le Canada et les Anglais veulent débarquer pour les enchasser. Et donc les Français ont supprimé tous les repères pour entrer dans le Saint-Laurent. Et Cook va avoir l'idée de poser des barques, d'amarrer des barques à chaque endroit émergent de l'estuaire. Et c'est ainsi qu'entre les barques, il va diriger son bateau entre les barques et pouvoir remonter le Saint-Laurent jusqu'à l'intérieur des terres. Il dit d'ailleurs dans son récit de voyage que par moment le bateau frôle à moins d'un mètre les barques qui repèrent les récifs. Il va donc remonter le Saint-Laurent, il va devenir un chef de guerre involontaire, mais avec les troupes qui sont dans son bateau, il va prendre les Français à revers et il va les battre à plate couture. Et c'est ainsi que le Canada devient britannique. Et les Français resteront bien sûr au Québec, mais avec plus de difficultés. Bref, et dès ce moment-là, il a compris que la carte, eh bien, ça sert à faire la guerre. Ça sert à nommer les territoires, à les posséder et à faire la guerre. Et quand il va partir pour Tahiti, son idée, c'est de cartographier l'ensemble de cette zone qui est cartographiée, mais en fait qui est blanche. Il n'y a aucune mention. Et lui, il veut marquer, petit à, découvrir les différents archipels, petit à petit les repérer et faire la carte pour établir l'Empire britannique dans toute son étendue. Alors ce petit, bon, c'est une petite incidente, mais qui montre que Cook a se dote d'une espèce de mission scientifique. Il va d'ailleurs intégrer, emmener dans son bateau un certain nombre de scientifiques, notamment des gens, des astronomes qui veulent observer le passage de Vénus. Et donc, il semblerait que ce soit donc vers la Polynésie, à peu près, puisqu'on n'a pas beaucoup de précision, que ce soit là qu'on peut l'observer le mieux. Donc, c'est une exposition scientifique qui va évoluer, bien entendu, et donc il va débarquer, en fait. Tout ça pour dire qu'en 1769, il débarque à Tahiti et il découvre effectivement une île paradisiaque, une île dont la population danse et chante et qui va accueillir les matelots avec beaucoup, beaucoup de sympathie. Alors ce chant, paradoxalement, s'appelle Alléluia. Alors, vous allez me dire, Alléluia, mais étrange. Oui, en effet. En réalité, comme les chants qu'on a entendus dans l'épisode précédent, eh bien, ce sont des chants issus du métissage entre les anciens chants polynésiens et les cantiques protestants anglais apportés par les missionnaires. En réalité, les Polynésiens qui ont compris ce qui était en train de se passer, probablement, ils sont assez malins. Donc ils vont garder l'essentiel de leur musique, l'essentiel des formes musicales de leur chant. Ils vont intégrer des paroles pour faire plaisir aux missionnaires et ils vont acquérir des formes polyphoniques qu'ils n'ont pas encore, probablement au moment où les navigateurs débarquent sur l'île. Donc peu à peu, après ce débarquement, eh bien, il va y avoir ce mélange. Alors ce qui est intéressant, c'est que ce Alléluia, en fait, c'est un Imene Tuki. Alors c'est un chant qui est à la fois, il y a quelques voix qui assument la mélodie, on pourrait dire, et qui est avec un chœur derrière qui répond. Alors avec des percussions, quelques fois il y a des ukulélés, mais pas toujours. Et donc on a un mélange de chants premiers, entre guillemets, et de formes polyphoniques acquises au contact des Occidentaux. Donc voilà, c'est un chant métissé. On peut imaginer une espèce de nostalgie, ce que pouvaient être ces musiques, sachant que certaines d'entre elles, certaines d'entre elles ont été interdites parce que les Occidentaux, les missionnaires, les trouvaient beaucoup trop érotiques. Et que donc, ces chants étaient rythmés la vie de tous les jours, mais y compris dans sa trivialité la plus naturelle. Univers insolite. Alain Vaquier, Bruno Bertrand, à la rencontre des musiques des peuples premiers.